conférence sur Diderot et l'encyclopédie, conférence qui va nous être donnée par Gaël Jean-Marc. Gaël Jean-Marc fait partie de ces personnes qu'on trouvait plus d'un certain âge, mais je me réjouis de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent comme ça à beaucoup de sujets et qui ne se spécialisent pas uniquement dans un point très précis. Gaël Jean-Marc est docteur en philosophie de l'Université de Liège. Elle est au départ spécialiste d'histoire de la philosophie antique et médiévale. Et ce n'est pas par hasard, malgré tout, que je l'ai invitée ici. Ce n'est pas par erreur du tout. Elle s'intéresse beaucoup aux questions d'éducation et de morale. Elle a publié sur Saint-Augustin, Herméneutique et subjectivité dans les confessions d'Augustin. Elle a également publié la généalogie de la docilité dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Du courage, une histoire philosophique avec Thomas Berns que vous avez vu au début de cycle. Et son ouvrage qui va bientôt sortir s'intitule « Le mensonge et les vertus de la vérité, une histoire ». Or, si je l'ai invitée, c'est en partie parce qu'elle travaille beaucoup pour une association qu'elle a fondée, je crois, qui s'appelle Philocité, et qui véritablement essaye de rendre la philosophie accessible à un public de non-philosophes, que ce soit les enfants, les ados ou les adultes. Et elle aime beaucoup travailler comme ça, à parler des philosophes et de la philosophie dans un contexte moins académique. Et c'est essentiellement la raison pour laquelle je l'ai invitée, dans le cadre de ce cycle, à intervenir aujourd'hui sur Diderot et l'encyclopédie, et lundi prochain sur Dolbach, mais je vous le rappellerai en fin de séance. Voilà, je lui cède tout de suite la parole.
Merci, bonsoir. Alors donc, je vais vous parler de Diderot aujourd'hui soir, et la première chose qu'il faut dire, la première chose qui m'a frappée en travaillant sur Diderot, c'est le contraste qui existait entre la représentation qu'on se faisait de Diderot au XVIIIe siècle, donc du temps de son vivant, où c'était un des grands hommes du siècle, le philosophe de préférence d'ailleurs à d'autres avec lesquels il s'est beaucoup lié d'amitié, comme Voltaire ou Rousseau. Diderot a été considéré comme le philosophe, auteur de l'encyclopédie, directeur de l'encyclopédie avec d'Alembert, et pourtant, si on se penche sur l'histoire de la philosophie et sur la façon dont aujourd'hui Diderot est considéré, eh bien, ce n'est pas comme philosophe qu'on a la mémoire de Diderot, mais plutôt en fonction d'une œuvre qui est une œuvre romancée, des contes, que ses contemporains ne connaissaient pas, pour la simple raison que la plupart des œuvres qu'on connaît aujourd'hui de Diderot, qui sont « Le rêve de d'Alembert », Jacques le fataliste, la religieuse, le neveu de Rameau, eh bien ces écrits n'ont pas été édités du vivant de Diderot. Alors la première question qui se posait pour moi, c'est de savoir pourquoi existe ce contraste entre la représentation de Diderot comme le philosophe du XVIIIe siècle, de son vivant, et la méconsidération actuelle dont il jouit au moins parmi les rangs des philosophes. Et alors je crois que ça doit introduire une approche critique de l'historiographie de la philosophie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement considérer qu'on doit d'entrer finalement dans le panthéon des grands philosophes, ceux qui ont une philosophie suffisamment remarquable ou suffisamment révolutionnaire, ou enfin, je ne sais pas très bien quels critères il faudrait donner pour accéder comme ça au titre de grand philosophe classique qui a le droit d'entrer dans une histoire de la philosophie et d'être enseigné à l'université. Mais il faut donc considérer qu'il y a probablement des choix, des stratégies qui sont plus ou moins conscientes et qui font que certains penseurs deviennent les penseurs phares, comme Kant, comme Rousseau peut-être, alors que d'autres penseurs finalement passent à la trappe, comme Diderot. Alors peut-être que vous avez entendu parler de Michel Onfray, oui, qui a une théorie, justement, une approche critique de l'historiographie de la philosophie, qui reproche d'abord à l'histoire de se poser comme la reine des disciplines et d'avoir tendance à renvoyer les autres disciplines à leur histoire. Les géographes, les historiens, les scientifiques, voyez dans quel paradigme vous pensez et essayez de penser l'historicité de votre paradigme pour voir un peu quelles sont vos grilles d'analyse. Il a tendance à dire ça... Enfin, la philosophie a tendance à dire ça aux autres disciplines, et Onfray lui reproche de ne pas se l'appliquer à elle-même, et de ne pas avoir donc une approche de sa propre façon de faire l'histoire de la philosophie, ce que lui veut faire, et il propose donc une contre-histoire de la philosophie, c'est-à-dire une histoire de la philosophie qui rendrait ses droits à une série de penseurs qui ont été négligés. Alors, il a une hypothèse sur ce qui a présidé au tri dans l'histoire de la philosophie. D'abord, il a dans l'idée que l'histoire de la philosophie, c'est vraiment une question de guerre, quoi. C'est des stratégies, c'est des évidences qui finissent par s'imposer, comme si ça allait de soi. C'est au contraire des choses qui sont tues, comme si ça allait tout autant de soi, mais en fait, il ne s'agit que de stratégies. Et pour lui, la stratégie, ou enfin, en tout cas, ce qui a dominé et ce qui a fait l'histoire de la philosophie classique, et donc universitaire, c'est qu'un courant de pensée s'est imposé, qui est l'idéalisme. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'idéalisme ? Berkeley, oui, Berkeley, c'est un idéaliste. Alors, pour définir l'idéalisme de façon très large, c'est un courant de pensée qui divise le monde en deux. Il y a le monde du devenir, le monde des phénomènes. Par excellence, Platon est le premier idéaliste. Et ce monde des phénomènes est passager, est sujet au mouvement, à la mortalité. Et pour connaître ce monde, on a besoin de le doubler d'un autre monde, qui est le monde intelligible, qui rend raison de ces phénomènes passagers. Si, par exemple, je peux connaître... le cercle, ce n'est pas en voyant un objet circulaire, c'est parce que j'ai en moi l'idée du cercle qui me permet de reconnaître qu'un ballon est un rond, disons, par exemple. C'est donc une philosophie qui pense que ce monde-ci, ce monde qu'on voit, est inessentiel, qu'il est connaissable à partir d'un monde idéal, idéal, et qui pense donc parallèlement qu'il y a un dualisme entre le corps et l'âme. Le corps, il appartient à ce monde du phénomène, il est donc sujet au mouvement, au vieillissement, il est mortel, et il est accompagné d'une âme qui est le principe intellectuel, le principe aussi du mouvement de ce corps, et qui, elle, est immortelle. Or, selon Onfray, précisément, c'est cette tradition qui s'est imposée. Et l'histoire de la philosophie classique est une histoire de la philosophie idéaliste. Alors on peut faire les grands noms. Il y a Platon, Aristote dans une certaine mesure qui hérite de toute façon du dualisme platonicien. Ensuite il y a évidemment cette théorie, le corps qui est dévalorisé, l'âme, principe spirituel, immortel, qui pouvait très bien être adopté par les pères chrétiens, et donc le platonisme a été adopté dans la spiritualité chrétienne. Donc on a la tradition platonicienne, la tradition chrétienne, et puis il y aura les grands idéalismes allemands, et on a là-dedans toute l'histoire de la philosophie classique enseignée à l'université. Alors ce qui a été laissé de côté, ce sont principalement les matérialistes, c'est-à-dire l'autre grand courant de pensée qui s'opposerait à l'idéalisme et qui pense précisément qu'il n'y a pas deux substances, qu'il n'y a pas deux mondes, qu'il y a un seul monde, ce monde-ci, une seule substance, la matière, et que donc l'âme n'est rien d'autre que de la matière pensante. Eh bien, ce courant aurait été, de façon à peu près systématique, négligé, brimé, mis à l'écart, et ne ferait donc pas partie de l'histoire, l'historiographie classique de la philosophie. Or, précisément, qui est Diderot ? Eh bien, Diderot est un penseur matérialiste. Donc, voilà, peut-être qu'on a trouvé là une piste, en tout cas, qui paraît plausible, et qui paraît d'autant plus plausible que, de son vivant même, Diderot a constamment dû affronter la censure. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'une histoire, qu'une façon de faire l'histoire de la philosophie. Il y a vraiment des pressions qui s'exercent sur la pensée au moment même où elle s'exprime et qui font que Diderot a une vie de philosophe qui est tourmentée par à la fois la cour royale, le Parlement de Paris et par le clergé. Et donc, ses œuvres sont interdites, sont mises au pilon. On commence très vite avec son premier écrit philosophique, qui sont les Pensées philosophiques, qu'il écrit en 1746. Il est né en 1713, pour vous dire, il a 26 ans, si je compte bien, mais je compte mal, donc vous ferez le calcul vous-même. Non, il y a 23 ans. Il a 23 ans, son premier écrit philosophique. Ensuite, ça se poursuit avec un des grands écrits philosophiques qu'on lui connaît, dont je vous parlerai plus longuement tout à l'heure, qui est la lettre aux aveugles à l'usage des voyants, des bienvoyants, qui l'amène en prison. Il est emprisonné pendant quelques mois et il ne sera sorti de prison que par la pression qu'exercent les libraires avec lesquels il vient de signer un contrat, qui est le contrat de l'encyclopédie, le contrat très juteux pour les libraires de l'encyclopédie. L'encyclopédie, donc, avec laquelle il enchaîne en sortant de prison, de nouveau, c'est une histoire qui est constamment empêchée. On ne cesse de tenter de mettre un terme à ce projet, de diviser les collaborateurs de l'encyclopédie, d'interdire son édition. Elle sera interdite quelques années après la parution des premiers volumes. Donc, on publie normalement les 7 premiers volumes. Et puis, un interdit royal vient mettre un terme à la publication. Donc, vous voyez que ce n'est pas juste la façon de faire l'histoire de la philosophie. C'est quelque chose qui s'exerce vraiment à même la pensée, à même la vie de celui qui pense et qui a vraiment une façon d'empêcher un certain type de pensée de voir le jour et de se d'éclairer finalement de paraître au grand jour. Je voudrais vous demander, j'avais dans l'idée de diviser mon propos en trois, de faire un petit exposé de biographie, la vie de Diderot, de vous parler ensuite de l'encyclopédie et enfin, et le plus important, de vous parler de la philosophie de Diderot. Et je voudrais, pour des questions de temps, voir si je peux faire l'impasse sur la vie de Diderot ou bien si c'est quelque chose à quoi vous tenez. Est-ce qu'il y en a qui tiennent particulièrement à la biographie de Diderot ? Attendez, je vais aussi faire une petite enquête. Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas de la biographie de Diderot ? Parce qu'en fait, ils trouvent que ça n'a pas d'importance, la biographie. Si, si ? Bon, allez. Un brin de biographie. Ça dépend quoi ? Vous voudriez savoir quoi sur la biographie de... Oui, alors, juste une toute petite chose avant de dire quelques mots sur la biographie. Je ne suis donc pas une spécialiste de Diderot. Hein, donc, j'ai l'air un peu de me la péter comme ça, mais mais non. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire je n'ai pas découvert Diderot dans mon cursus universitaire, puisque précisément Diderot ne faisait pas partie du cursus universitaire. Et donc, ce n'est pas un hasard non plus. Peut-être que Anne pourrait confirmer qu'elle a eu du mal à trouver quelqu'un pour parler de Diderot, je ne sais pas. Non ? Oui ? Si, si. Et donc, ce que je vous propose, ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'économie, c'est-à-dire j'ai travaillé pour vous quelques jours à lire Diderot de façon intensive, et je vous propose un raccourci, une présentation qui va vous permettre à vous ensuite, éventuellement, si ce que je vous aurais dit d'un peu irrévérencieux, joyeusement irrévérencieux de la pensée de Diderot vous aura donné envie d'aller lire. Donc c'est ça, en gros, les objectifs que je peux donner à mon propos. Alors, la biographie. Donc, il est né en 1713. Il est né dans une famille relativement aisée, aîné d'une famille de 7 enfants. Son père est coutelier à Langres. Et Diderot est inscrit assez rapidement au collège jésuite de Langres, où il fait des études qui sont finalement assez tumultueuses. C'est-à-dire qu'il est à la fois excellent élève, il rafle tous les prix de fin d'année, mais c'est aussi le chef d'une bande qui sévit la nuit. Et donc il y a des tas d'anecdotes qui circulent sur la vie nocturne de Diderot dès l'âge de 10 ans, dont l'anecdote selon laquelle il aurait été déconstruire en pleine nuit avec sa bande de potes une tour de la ville de Langres. Voilà une petite idée de la personnalité. C'est un élève brillant et profondément, viscéralement rebelle. Je pense que ça a un impact. D'ailleurs, si la biographie a un intérêt, c'est qu'elle donne une matière, un corps à la pensée qui aurait l'air sinon d'exprimer des vérités universelles et générales, alors que ça fait bien partie des thèses matérialistes, d'ailleurs, de Diderot. C'est de dire que la pensée, c'est un corps, c'est une matière, et que donc, évidemment, que la vie de la personne, son tempérament, ont un impact sur les théories qu'elle peut défendre. Donc, nous avons un esprit rebelle, et qui se manifeste assez tôt et de façon assez permanente. À 13 ans, par exemple, Diderot fait son baluchon en pleine nuit parce qu'il a décidé que le niveau des études du collège des jésuites de Langres n'était pas suffisant pour lui et qu'il désire donc poursuivre sa scolarité à Paris, et notamment au collège Louis le Grand, qui est encore aujourd'hui le collège où s'instruisent les élites françaises. Et au milieu de la nuit, son père le surprend donc, et Diderot lui dit, lui fait part de son envie d'aller étudier à Paris. Ils se mettent d'accord et en effet, ils partent tous les deux par la voiture publique le lendemain matin. Donc Diderot ira poursuivre sa scolarité à ce collège Louis le Grand, puis il débutera et terminera un cycle à l'Université de Paris, à la Sorbonne, un cycle en art. Donc il est philosophe, puisque l'enseignement des arts, c'est l'enseignement de la philosophie. Son père voudrait qu'il soit juriste, et donc qu'il enchaîne à cette maîtrise S-Art, une maîtrise en droit. Il écrit donc à un procureur du roi qui est originaire, comme eux, de Langres, et qui prend en effet le jeune Diderot sous son aile. Mais l'aventure va se terminer assez tôt parce que Diderot n'aime pas le droit. On a toujours cet esprit un tout petit peu rebelle. Diderot veut bien passer énormément de temps à travailler, mais ce qui lui plaît, c'est le latin, le grec, les mathématiques, l'italien, l'anglais, l'hébreu. Donc il travaille énormément les langues, c'est vraiment un polyglotte. Et les mathématiques, la géométrie. Le droit... il n'a pas du tout envie de s'y atteler et donc il abandonnera assez rapidement ses études de droit. Son père fâché lui coupe les vivres et à partir de là, on est plus ou moins en 41, donc Diderot a 19 ans. À partir de là, il vit une vie de bohème. On n'a pas grand trace de ce qui se passe les 10 années qui suivent. On sait qu'il vit d'une série de tout petits boulots, mais qu'il est vraiment au seuil de la pauvreté. Ça lui arrive de faire des malaises parce qu'il n'a pas trouvé de quoi se nourrir, pour vous donner une idée de jusqu'où va la pauvreté de Diderot. Mais elle est choisie aussi. C'est-à-dire qu'il est suffisamment brillant que pour avoir notamment une place de précepteur chez un riche financier parisien, qu'il a choisi d'abandonner parce que c'était trop facile. C'était un programme prédéfini de la journée qui ne lui convenait pas. Et donc, il a préféré quitter ce confort matériel pour poursuivre sa vie un peu errante et bohème. Il vit de petits expédients, des traductions, des sermons qu'il écrit pour des prêtres. Il vit aussi de petites combines. Il s'amuse assez bien à escroquer des chanoines en prétendant qu'il rentrera au couvent, mais qu'il doit d'abord régler quelques dettes. Et il réussit comme ça à leur extorquer régulièrement un peu d'argent jusqu'au moment où un des chanoines se fâche et Diderot a beau jeu de lui dire « Ah ben, puisque c'est comme ça, je ne rentrerai pas au couvent », ce qu'il n'a probablement évidemment jamais eu l'intention de faire. Donc voilà. Un mot peut-être sur l'œuvre, un tout petit peu, pour la situer dans le contexte. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il écrivait ses premiers écrits à 23 ans, ses pensées philosophiques. Puis il y a la lettre sur les non-voyants à l'usage de ceux qui voient. Je pense que ça doit être ça, plus ou moins le titre exact, mais... cette lettre donc lui vaut la prison. Il reçoit notamment une lettre de Voltaire qui le remercie de ce manuscrit ingénieux, même si Voltaire ne partage pas les conceptions athées qui commencent à se faire jour dans ce manuscrit. Il sort donc de prison, je vous l'ai dit tout à l'heure, sous la pression des libraires, et il entame alors ce qui sera... l'œuvre principale de sa vie, puisqu'il y consacrera les 20 ou 25 années qui suivent, qui est donc la direction de l'encyclopédie. Il écrira, supervisera à peu près 5000 articles de cette œuvre qui est tout à fait monumentale. Eh bien, c'est une parfaite transition pour vous parler donc de l'encyclopédie. L'encyclopédie, donc j'ai dit monumentale, 28 volumes, 17 volumes d'écrits, 11 volumes de planches. Vous verrez que ça a une importance, les planches. Ce qu'on peut dire, c'est que le projet de l'encyclopédie est né de l'envie, Diderot a de traduire une encyclopédie anglaise, qui est l'encyclopédie de Chambers, et que, traduisant cette encyclopédie, il y voit un certain nombre de lacunes, et que donc naît pour lui l'envie de proposer une encyclopédie beaucoup plus considérable. Alors, les lacunes principales qu'il voit dans tous les dictionnaires de son temps, l'époque est déjà aux dictionnaires et aux encyclopédies, donc ce n'est pas la première encyclopédie, mais la lacune principale qu'il voit dans ce qui existe, c'est qu'on fait beaucoup place aux sciences et à la spéculation, et que finalement aucune place n'est laissée aux arts et aux métiers. Donc son encyclopédie à Diderot, c'est son titre, le grand dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Donc, un des grands objectifs de Diderot, c'est de faire droit à l'ensemble des procédés techniques, des machines, des outils dont les hommes disposent et qui leur permettent de fabriquer. Alors, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que ça va, je pense, avec ce fond de pensée matérialiste qui est déjà le sien à cette époque-là, donc aux environs de 1750. C'est-à-dire, ça va avec une rupture par rapport à une longue tradition philosophique qui a valorisé la théoria. Vous savez, la théoria, la théorie, donc l'aspect théorique des choses, c'est la contemplation. la contemplation, ça va avec une vie en écart par rapport au monde qui bouge. Et c'est ce qui fait aussi la liberté intellectuelle. C'est justement qu'elle n'est pas compromise avec ce monde concret où il faut se coltiner les choses à faire, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant dans la pensée grecque. L'idée que la liberté, c'est d'ailleurs la racine même du mot scolé, hein, le loisir qu'on peut prendre par rapport à la nécessité vitale qui nous fait affronter, qui nous fait travailler. Et donc la philosophie, initialement, elle se valorise de ce loisir qui dispense d'aller mettre ses mains dans le cambouis. Autrement dit, il y a une longue histoire, une sorte d'imprégnation profonde qui fait de la philosophie un art théorique et qui fait donc des philosophes des gens qui sont relativement mal instruits des savoirs pratiques. Et donc, c'est quand même pas rien, ce pas que demande à un moment le fait d'établir comme domaine de savoir ayant une valeur et ayant suffisamment de valeur pour entrer dans un dictionnaire et dans une encyclopédie à prétention universelle. Eh bien, tout ce domaine dévalorisé des techniques. Et donc, très concrètement, ça veut dire que Diderot va se rendre... Diderot, qui aura la charge principale de cette partie de l'encyclopédie, eh bien, il se rendra dans des ateliers, il regardera travailler, il fera venir des machines, demandera qu'on les démonte et puis qu'on les remonte devant lui, regardera travailler les artisans... et se mettre à lui-même, il explique ça dans l'article encyclopédie de l'encyclopédie, se mettre à lui-même à l'œuvre, estimant qu'on ne peut parler des techniques, des machines et des outils que si on les a soi-même utilisés. Donc Diderot, qui, vous vous souvenez, il est un père coutelier, il finit lui aussi par être finalement d'abord un praticien, un homme manuel. Alors, il explique dans cet article encyclopédie de l'encyclopédie que c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de tradition du savoir sur les techniques. Et donc, quand on explique le fonctionnement d'une machine, d'abord, on a du mal à trouver chez les techniciens eux-mêmes des gens suffisamment compétents pour en parler d'une façon intelligible et intéressante, d'où il s'y est mis lui-même. Et puis, il n'y a pas non plus cette culture qui fait qu'on comprend et qu'on visualise le fonctionnement d'une machine par la simple description, d'où l'usage des planches. Donc en fait, l'énorme masse de planches va avec ce projet tout à fait particulier d'une encyclopédie qui est aussi celle des arts et des métiers. Alors, pour en dire encore un mot, pour dire encore un mot sur l'encyclopédie, on peut dire que il y a un double objectif et une double contrainte à l'encyclopédie. D'abord, encyclopédie, ça veut dire N, dans, kuklos, cercle, paideia, éducation. Et donc, le savoir encyclopédique a une prétention à la globalité et aussi à l'organisation générale des savoirs. Donc, faire une encyclopédie, en principe, ce n'est pas faire un dictionnaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner l'architecture globale, l'organisation totale des savoirs humains, en assumant justement qu'il s'agit bien de savoirs humains. C'est-à-dire qu'on ne va pas décrire le monde, mais on part de l'humain. Et un petit brin de Kant, si je pense qu'on a dû vous en parler. On part des catégories humaines, finalement, on part de l'entendement humain. Et à partir de cet entendement humain, on essaye de voir les différents types de registres du monde qui sont à disposition. J'explique, ce n'est pas très clair ce que je viens de vous dire. On part des facultés de l'âme. Alors, quelles sont les facultés de l'âme ? Il y a la mémoire, il y a la raison et il y a l'imagination. À chacune de ces facultés de l'âme humaine sont attachées un ensemble de savoirs. La mémoire entraîne l'histoire, la raison entraîne les arts, la philosophie, les sciences et l'imagination entraîne, fonde la poésie, le théâtre. Donc l'organisation globale de l'encyclopédie, elle est donnée dans un premier aperçu général qui s'appelle le prospectus, qui est le petit livret que Diderot communique pour lancer la presse, la souscription, voilà, la souscription. Donc on lance en effet cette entreprise, non pas à fond perdu, mais sur souscription, et la présentation de l'encyclopédie, c'est le prospectus qui présente l'organisation générale du savoir, donc selon ces trois grandes facultés qui donnent un ensemble de savoirs. Alors évidemment, l'encyclopédie elle-même ne se présente pas sous cette organisation-là. Elle se présente sous la forme d'un dictionnaire, donc dans un ordre qui est alphabétique, mais on essaye de combiner les deux, c'est-à-dire que l'ordre alphabétique permet une sorte de panorama absolu des connaissances, et Diderot emploie l'image de la topographie la plus minutieuse, à laquelle on essaye de relier la map-monde générale qui est la présentation globale de l'organisation des sciences qui est proposée dans le prospectus. Donc voilà, une sorte de tension qui existe, relativement mal assumée, entre la volonté de couvrir tous les registres du savoir humain et de les couvrir de façon relativement précise, et puis la volonté de comprendre l'organisation générale. Alors, la tension, elle existe très concrètement parce que c'est une entreprise qui n'est pas le fait d'un seul homme, et il y a donc des centaines de collaborateurs à l'entreprise. Des centaines de collaborateurs qui ne se retrouvent jamais. Chacun travaille dans son coin, avec ses compétences, avec ses a priori aussi. Et donc, il y a une grande inégalité dans les productions des encyclopédistes. Il y en a qui sont athées, mais il y en a aussi qui sont déistes. Il y en a qui sont les hommes les plus brillants du siècle, puisque Rousseau, Voltaire collaborent, Condillac, Helvétius, il y a beaucoup de grands noms du siècle qui collaborent à l'encyclopédie, mais il y a aussi des tas de petits personnages obscurs et qui ont les idées bien plus étroites. Et Diderot a conscience de ça, et alors il essaye évidemment à chaque fois de rafistoler comme il peut par un art des renvois, tenter de tisser une toile entre ces différents articles aux valeurs très inégales. Voilà ce que je pourrais dire sur l'encyclopédie, comme ça, sans doute qu'il y a des immenses choses qui m'échappent, mais comme vous voyez, j'ai décidé de ne pas m'appuyer sur un papier écrit que je vous lirai, et donc, voilà, les aléas du choix. Est-ce qu'on peut faire une toute petite pause, question, histoire de s'aérer un tout petit peu l'esprit? J'ai l'impression que sinon je vais vous assommer complètement. Sabote complètement.
La date du début de l'encyclopédie dont Diderot s'est occupé.
1750-1751 à peu près.
Pourquoi est-ce qu'il y a eu un arrêté royal contre l'encyclopédie, et en quoi est-ce qu'elle était dangereuse et qu'elle a pu gêner?
Mais ça, j'y viendrai. C'est toujours le problème à interrompre avant la fin. C'est en effet, je pense, les présupposés théoriques de la philosophie de Diderot qui transparaissent dans l'encyclopédie, dans les articles qu'il écrit, et que d'Holbach, qui a les mêmes présupposés, qui sont l'athéisme, le matérialisme et le déterminisme, et ces trois grands présupposés dont je vous parlerai juste après cette petite interruption, sont les trois présupposés, je pense, qui font la révolution. Oui, il y a une des choses. Pardon. Je ne sais pas si je ne suis pas suffisamment précise peut-être là-dessus, parce que je ne connais pas bien les circonstances très précises de la levée de l'autorisation royale, de la protection un peu que le roi pouvait proposer aux encyclopédistes pour empêcher notamment les prêtres. Il y avait quand même initialement, me semble-t-il, une sorte d'antagonisme entre la cour le Parlement qui voulait autoriser une encyclopédie qui avait qui était dans le sens du mouvement des Lumières, qui voulait rendre accessible l'ensemble des savoirs, et donc l'État voulait favoriser ce genre d'entreprise et la protéger du clergé, et notamment protéger cet aspect très technique. On va mettre un ensemble de procédés à la disposition de tout le monde, mais ça a quelque chose de démystificateur, et donc il y avait une sorte de protection de l'État contre l'Église qui a été levée à un moment. Et on va enchaîner. Oui. Alors, la philosophie de Diderot. Eh bien, donc, pour revenir à des éléments de contexte, Diderot est un personnage qui vit très entouré philosophiquement. Dès qu'il a 20 ans, il épouse contre l'avis de son père. Je vais vous rendre ceci. Antoinette Champion, qui tient un peu les cordons de la bourse, pour l'anecdote, elle lui donne tous les jours 6 sous pour qu'il aille au café de la rue Mouffetard. Et au café de la rue Mouffetard, eh bien, Diderot rencontre Rousseau, Condillac, Helvétius. Et 10 ans plus tard, après 10 années de café, les retrouvailles, les rencontres, les discussions philosophiques ont lieu dans les salons du baron d'Holbach, dont je vous parlerai la fois prochaine. Donc il y a comme ça une grande habitude de la pratique orale de la philosophie, entourée d'un petit cénacle de penseurs très proches, avec lesquels il pourrait y avoir des dissensions, hein, notamment il rompra avec Rousseau, qui trahira. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes présupposés philosophiques. Rousseau est et reste déiste. Et il trahira, c'est-à-dire qu'en une époque où il est indispensable de publier sous le manteau quand on publie des écrits athées, sous peine de les voir réduits au pilon ou bien d'être condamnés, comme l'a été Diderot, eh bien, dans l'Émile, Rousseau explique un peu quelles sont les thèses d'un personnage dont à peu près tout le monde a bien vu qu'il incarnait le baron d'Holbach. Donc voilà, un antagonisme qui naît. Mais bon, je voulais dire, Diderot est très entouré, petit cénacle d'amis qui se retrouvent plusieurs fois par semaine, et c'est ça le ferment de l'encyclopédie. Il y a dans ce petit cénacle une série de collaborateurs qui sont les gens qui ont vraiment tissé l'âme de l'encyclopédie et qui ont donc aussi tissé les présupposés fondamentalement matérialistes de la plupart des articles de l'encyclopédie. D'où la condamnation et le fait que l'autorisation royale à un moment est levée. Donc, il appartient à une petite coterie qu'on peut dire suffisamment homogène pour parler d'un courant philosophique qui a trois présupposés fondamentaux, dont je vous ai dit, l'athéisme, le matérialisme et le déterminisme. Alors, je vais vous donner une idée, un aperçu de ces trois grands courants, enfin, de ces trois grands principes du courant matérialiste. En partant finalement dans l'ordre des œuvres de Diderot. Donc je vais partir plutôt de l'athéisme, parce que c'est le premier grand principe qui apparaît, qui transparaît dans l'œuvre de Diderot. Alors il y a tout d'abord dans son premier écrit philosophique, Les Pensées philosophiques, une grande distance qui est prise par rapport à la foi. Et cette distance, elle est prise parce que Diderot veut défendre la place du doute dans la foi et dire que ce n'est absolument pas sacrilège de douter de la foi, que c'est au contraire une des preuves de l'humilité, qui est une des grandes vertus chrétiennes, de l'humilité de l'homme qui peut reconnaître les limites de son savoir que de douter. Alors ça va un tout petit peu plus loin, d'où la condamnation de ce premier écrit. C'est-à-dire qu'il admet que la raison est une faculté qui nous vient du ciel et qu'il y a une incompatibilité profonde entre la raison et la foi et que donc il faut choisir entre ces deux facultés et que donc il faut renvoyer la foi à la chimère et considérer simplement que la raison nous vient du ciel et qu'on a donc tous les droits de l'écouter. Donc concurrence, raison, foi, on dénonce la foi. On peut continuer à croire en Dieu, mais c'est le Dieu des philosophes, quoi. C'est le Dieu de la raison. Alors progressivement, il va abandonner ce théisme qui laisse la place non pas à la foi, mais en tout cas à l'existence de Dieu, en publiant un de ses principaux textes, un des plus importants, qui est donc la lettre sur les aveugles à destination de ceux qui voient. Alors, cette lettre, elle part d'une sorte d'enquête que fait Diderot, qui interroge un non-voyant sur ses représentations mentales. L'hypothèse à la source de cet écrit, c'est que la morale et la religion dépendent des représentations et que les représentations dépendent des sens. Autrement dit, si nous avions 6 sens, nous aurions une morale et une religion bien différentes de ce qu'elles sont. De la même façon, ceux qui ont un sens en moins, les aveugles, ont donc aussi une morale et une religion qui est différente. Et il s'agit donc d'interroger un aveugle pour essayer de mettre des mots sur la différence entre la morale chrétienne ambiante et la morale qui pourrait être celle d'un aveugle, précisément en raison de ce sens dont il est privé. Alors, pour la morale, ce qui fait la différence, eh bien, c'est que notre morale de voyant, elle est en effet très inclinée par le spectacle de la douleur. C'est-à-dire, nous condamnons, nous compatissons à la douleur d'un grand animal comme un cheval, qui pour nous est très visible, alors qu'on peut écrabouiller une fourmi, et que ça n'a pas la moindre charge morale, disons. Eh bien, ça, c'est une morale qui est liée à un sens, qui est le sens de la vue. De la même façon, notre registre, dirions-nous, de condamnation tient à la vue, au sens où, par exemple, on serait très impressionné par le spectacle du sang, par les blessures, par les crimes atroces visuellement. Il y a toujours dans l'atrocité quelque chose, un spectacle que ne voit pas l'aveugle. Et donc, on n'aurait pas le même classement des délits. C'est-à-dire, le crime qu'on punirait par-dessus tout serait ces crimes de sang, parce que pour nous, la vue du sang est quelque chose d'effrayant. Mais il n'y a pas de différence pour un aveugle entre un homme qui se vide de son sang sans geindre et un homme qui urine. D'où ce crime ne serait pas le crime qu'il punirait de façon première. Il punirait beaucoup plus sévèrement les crimes auxquels il est, lui, soumis en raison de sa cécité, qui sont tous les crimes par lesquels on abuse de lui et de sa cécité, donc le vol et les escroqueries diverses. Alors, voilà pour la morale. L'aspect le plus important et le plus polémique de cet écrit-là, c'est la description de ce que pourrait être la religion d'un aveugle. Parce qu'un des grands arguments en faveur de l'existence de Dieu, c'est le spectacle de l'ordre du monde, c'est le spectacle de la beauté. Ça existe depuis le De Ordine de saint Augustin sur l'ordre du monde est par excellence la preuve du grand horloger et de l'existence de l'horloger. Eh bien, précisément, cet argument n'a aucune valeur pour un aveugle. Je suis condamné à l'obscurité et donc il est inutile de faire valoir le spectacle de choses que je n'entends pas, parce que ce monde que vous me décrivez, eh bien, il ne me dit rien. si vous voulez que je croie en Dieu, faites-le-moi toucher. Et c'est cette phrase qui fera le scandale de cette œuvre-là. Si vous voulez que je croie en Dieu, eh bien, il faut me le faire toucher. Parce que là, on a caché derrière, pas très loin, pas si caché déjà, l'idée que si un Dieu existe, s'il y a un Dieu qui existe pour tout le monde, y compris les non-voyants, eh bien, ce Dieu est matériel. C'est-à-dire qu'on a démonté le fantasme qui est lié à la vue. Et la vue est précisément le sens qui est le plus susceptible de nous illusionner. D'où l'intérêt donc d'aller sortir l'aveugle, celui qui est privé précisément de ce sens, pour montrer l'absurdité de la morale et de la religion traditionnelle. Alors, troisième type de critique, je vous ai dit, concernant l'athéisme, d'abord valorisation du doute, ensuite mise en question de la religion et de la morale traditionnelle à partir de cet exemple de l'aveugle et de la morale qu'il pourrait avoir et de la religion. Et troisième pan de la critique religieuse de Diderot, c'est sa critique du fonctionnement de l'institution. Et ça, on trouve ça dans un texte qui date plus ou moins de 1760 et qui s'appelle « La religieuse ». Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Je voudrais juste vous citer un petit extrait, histoire que vous ayez entendu un peu de Diderot. Et en fait, ce qu'il s'agit, enfin, la façon dont Diderot critique le clergé, c'est en essayant de voir à quel type de vie, donc on a toujours cet aspect très matériel, très concret, ne nous perdons pas dans des idées, dans des théories, allons voir à quoi renvoie la vie concrète des gens qui s'enferment dans les monastères. Et le livre est effrayant, on ne peut que compatir. L'histoire, c'est celle d'une religieuse qui voudrait dire que ses vœux ne sont pas juridiquement valables parce qu'ils ont été contraints et qui veut à toute force sortir du couvent et que bien sûr on ne va cesser de séduire, de ramener, on va essayer de la priver de sa contestation, de sa force contestataire pour la ramener dans le couvent. Et la ramener à une vie qui est vraiment atroce. Alors, un petit extrait de la religieuse. Où est-ce qu'on voit les têtes obsédées par des spectacles impurs qui les suivent et qui les agitent? Où est-ce qu'on voit cet ennui profond, cette pâleur, cette maigreur, tous ces symptômes de la nature qui languit et se consume? Où les nuits sont-elles trempées par des gémissements, les jours trempés de larmes versées sans cause et précédé d'une mélancolie qu'on ne sait à quoi attribuer? Où la nature révoltée d'une contrainte pour laquelle elle n'est point faite brise les obstacles qu'on lui oppose, devient furieuse et jette l'économie animale dans un désordre auquel il n'y a plus de remède? En quel endroit le chagrin et l'humeur ont-ils anéanti toutes les qualités sociales? Où est-ce qu'il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni parent, ni ami? Où est-ce que l'homme, ne se considérant que comme un être d'un instant et qui passe, traite les liaisons les plus douces de ce monde comme un voyageur les objets qu'il rencontre, sans attachement? Où est le séjour de la gêne, du dégoût et des vapeurs? Où est le lieu de la servitude et du despotisme? Où sont les haines qui ne s'éteignent point? Où sont les passions couvées dans le silence? Où est le séjour de la cruauté et de la curiosité? Alors, ce qu'il faut dire pour redonner un brin de contexte à ce texte, dont l'écriture est par ailleurs, le contexte d'écriture est très amusant parce qu'il s'agit de faire revenir un ami de cette petite coterie d'intellectuels de haut vol qui est parti à Caen et qui s'était très peu de temps avant son départ à Caen intéressé à cette histoire vraie d'une religieuse qui voulait sortir du couvent. Et donc, ce que fait Diderot dans ses soirées un peu amusantes chez le baron d'Holbach, c'est qu'il décide de refaire revivre cette religieuse pour son marquis. Cette religieuse s'adresse au marquis et lui dit j'ai besoin de votre aide, aidez-moi à sortir de ce couvent, je me suis enfouie, mais j'ai besoin d'un soutien matériel, accueillez-moi, aidez-moi. Et le marquis va répondre avec la plus parfaite honnêteté, et proposant 100 000 stratagèmes pour aider cette religieuse. Et donc, les soirées de Diderot avec ses amis sont des soirées de grands éclats de rire à découvrir les lettres du brave marquis. Et la religieuse est une sorte de compilation comme ça de ces lettres que Diderot invente et qu'il invente dans ses soirées. Donc à la fin, de faire revenir l'ami cher. Mais ce qui fait le fond de l'expérience de la religieuse, ce n'est pas simplement ce fait divers advenu quelques années avant, c'est aussi l'expérience familiale de Diderot. Et il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est d'une part qu'il a lui-même eu une sœur qui était religieuse, et que cette sœur est morte assez jeune, folle. Et que Diderot est très imprégné de cette image de la folie qui a été générée par un univers qu'il a suffisamment éprouvé lui-même en ayant suivi l'enseignement des jésuites, en ayant côtoyé en permanence les monastères, en y ayant aussi été enfermé quelques mois par son père au moment où il s'opposait à son mariage avec Antoinette Champion. Eh bien, son père avait enfermé Diderot dans un monastère près de Troyes, dont il dit s'être échappé après quelques mois, au milieu d'une nuit, avec ses seuls vêtements et avoir marché 30 lieues sous la pluie, avec la tête à moitié rasée, dit-il, parce qu'ils avaient pensé que c'était un procédé utile à l'empêcher de s'enfuir. Et donc, il a une expérience de ce que ça peut être, l'emprisonnement, et c'est vraiment comme ça qu'il a vécu, évidemment, les choses, dans un univers dont il a éprouvé toute la méchanceté et qu'il décrit dans certaines lettres qu'il écrit à ce moment-là, notamment à sa promise ou à la femme qu'il aimerait épouser. Deuxième grand principe, celui du monisme matérialiste. Donc en lieu et place du dualisme traditionnel, âme-corps, Diderot et sa petite coterie matérialiste admettent un seul principe qui est la matière. Rien n'existe que la matière. Et l'âme, donc, est matérielle. Et Dieu, s'il existe, est matériel. Donc rien n'existe que la matière. Pardon. Et cette matière, Diderot lui attribue une propriété qui est le dynamisme. Donc c'est une sorte de dynamisme matérialiste, de matérialisme dynamique. La matière est hétérogène, se combine, et de la combinaison de la matière naissent une série de propriétés nouvelles. Alors, le grand écrit que Diderot consacre à cette question de la matière, du matérialisme, c'est celui qui est le plus célèbre parmi les écrits, romans, philosophiques de Diderot, et c'est l'écrit qui s'appelle « Le rêve de D'Alembert ». Alors, « Le rêve de D'Alembert », il part d'une hypothèse, et c'est comme ça qu'il faut poser les choses. Il ne s'agit pas de prouver le matérialisme, mais de dire que le matérialisme est une hypothèse dont on va essayer d'étudier les virtualités heuristiques, donc la façon dont elle permet d'expliquer une série de phénomènes. Alors, qu'est-ce que le matérialisme permet d'expliquer, et surtout, qu'est-ce que le principe de la sensibilité de la matière permet d'expliquer, qui est le premier principe admis dans le rêve de D'Alembert? Eh bien, ça permet d'expliquer la continuité qui peut exister dans tout le vivant entre les minéraux, les végétaux et les animaux. Alors, Diderot prend l'exemple de la nutrition, une espèce d'exemple phare, de modèle d'explication, qui lui permet de comprendre comment on passe dans un continuum comme ça de la matière inerte, qui a l'air du coup de ne pas être sensible à l'animalité ou à l'humanité qui dispose de toute évidence de la sensibilité. Donc la matière même organique et sensible. Et donc l'exemple de la nutrition lui permet de est un élément, disons, lui permettant d'expliquer ce qu'il veut dire. C'est que quand vous vous nourrissez d'un élément organique, eh bien, ces molécules rencontrent, dans le processus de la digestion, se mêlent avec vos propres molécules et deviennent chair. Et donc, il y a un processus de transformation de l'organique en animal. Alors, ça a des impacts. Ça lui permet notamment d'expliquer autrement la genèse, c'est-à-dire les théories en vogue de l'explication de la genèse des individus. C'est l'idée du germe, c'est-à-dire en germe se trouve l'animal tout entier. Alors ça paraît pas plausible pour Diderot, qui préfère l'explication du naturaliste anglais Needham, qui est celle de la génération spontanée. C'est-à-dire, il n'y a pas un germe qui contient l'éléphant. Il y a une transformation d'une matière qui est purement organique en matière animale, vivante, par le biais de ces processus, de ces rencontres de particules qui permettent de passer d'un stade à un autre. Alors c'est comme ça qu'il explique, par exemple, le passage, enfin l'hétérogénéité initiale entre l'œuf et le poussin. Ce n'est pas un germe qui contient déjà la poule, l'œuf. C'est une matière organique qui va se transformer de façon à s'animaliser. Et ça ouvre la porte, cette idée de la génération spontanée, de la façon dont des molécules, en se rencontrant, font naître des propriétés nouvelles, ou bien dont des molécules qui sont initialement sensibles, puisque tout est sensible, mais de façon passive. Comment ces molécules qui sont sensibles de façon passive, ce que Diderot appelle le nisus, voilà, un terme un peu conceptuel, eh bien, vont passer à une force qui est active, et qui est la sensibilité classique, quoi. Donc il a ce modèle de l'explication qui est la nutrition. Il généralise ce modèle parce que jusque-là, il a expliqué le passage du végétal à l'animal, mais il n'a pas encore expliqué le passage du minéral à l'animal ou du minéral au vivant. Est-ce que la pierre sent ? Est-ce que la pierre est douée de sensations ? Diderot a pour position de principe que oui, puisque tout le vivant, toute la matière sent. Alors, comment est-ce qu'il peut expliquer ? Eh bien, il s'agit juste d'expliquer le même genre de phénomène que celui de la nutrition. Il prend l'exemple de la statue de marbre explosée en poussière. Cette poussière de marbre va dans l'humus, se mélange à l'humus pendant des années. Et puis, on y fait pousser un légume. Ce légume incorpore les molécules de matière minérale. Et il se passe ce même processus de transformation. Depuis le minéral jusqu'au végétal, le végétal lui-même absorbé devient animal. Donc, on a à ce stade de la discussion expliqué une sorte de continuité entre l'organique, enfin, le minéral, le végétal et l'animal. Reste à expliquer la pensée, parce qu'il ne suffit pas de dire que la matière sent. Il faut encore voir ce qui fait la différence entre la sensation d'une pierre et la sensation d'un être humain, et particulièrement la pensée. Alors, ce que va faire Diderot, c'est qu'il va prendre deux images. Et c'est important de noter ça, de relever, c'est que ce sont des images. C'est quelque chose qu'on lui reprochera d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est pas un matérialisme scientifique. Il aurait pu, il avait largement les compétences pour, voilà un homme qui est vraiment au seuil de tout ce qui se fait de scientifique de son temps. Il connaît des naturalistes, des botanistes, il a écrit sur la géographie, sur l'économie, enfin, il pourrait s'appuyer sur des théories scientifiques. Mais ce n'est pas ce qu'il choisit de faire. Il choisit l'analogie, il choisit l'image. Je donnerai quelques éléments tout à l'heure pour voir qu'est-ce qui a attiré de ça. Et les deux images qu'il choisit pour expliquer ce que c'est que cette pensée, c'est l'image du claviériste et l'image de l'araignée sur sa toile. L'homme est comme un clavier, sans claviériste justement, un clavier et les sensations, ce n'est rien d'autre que la façon dont toutes les touches de son organisme sont affectées par des éléments extérieurs. Donc il s'agit d'expliquer la pensée, au bout du compte, par un processus d'enchaînement causaux, de rester dans l'élément de la causalité. On a un courant d'air, on a un spectacle quelconque qui produit une impression. Cette impression est comme une façon dont on enfonce une touche et ça produit un son. Eh bien, la pensée, c'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que la production mécanique par un ensemble d'éléments extérieurs qui impactent un système nerveux. Alors, l'autre image, c'est l'image du système nerveux comme celui d'une toile d'araignée. Il est d'ailleurs représenté à ce moment-là d'une façon relativement proche, un réseau de nerfs qui couvre l'ensemble des parties du corps. Et de la même façon que l'araignée est avertie du moindre impact qui se produit, eh bien, le cerveau est averti lui aussi, et le système nerveux central est averti de tout ce qui peut se produire et impacter le réseau nerveux qui constitue le corps humain. Alors ce qui fait maintenant qu'il y a de la pensée, de la conscience de soi, c'est une faculté qui est de nouveau liée à la matière et liée au cerveau, qui est la mémoire. C'est-à-dire, la seule différence entre la conscience d'un être humain et la façon dont un animal sent, c'est la mémoire. C'est-à-dire le fait de relier l'ensemble des impressions qu'on a reçues à soi-même, à son histoire propre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des impressions qui sont... On les vivrait au gré comme ça de ce qui se passe, on serait impacté juste au coup par coup. On a une capacité de faire un lien entre tous ces différents impacts et de considérer qu'ils font partie de notre histoire propre. Et en fait, la conscience de soi, c'est rien d'autre que ce lien qu'on fait entre toutes les façons dont on est troublé, perturbé, touché, affecté, nerveusement sollicité par l'ensemble des événements extérieurs et intérieurs d'ailleurs. Parce que l'araignée, si elle bouge sur sa toile, elle-même, elle fait bouger toute cette toile. Donc il n'y a pas simplement le fait qu'elle sache quand un événement arrive de l'extérieur. Elle-même aussi fait bouger toute la toile. Ça n'a pas l'air d'être si simple que ça. Hein. Je vois des visages qui se renfrognent un petit peu. Bon. Je ne pourrais que vous inviter à aller lire cet écrit qui est assez stimulant et facile à lire. Troisième et dernier principe, puis je vous laisse un peu souffler. Il est peut-être l'heure. Quelle heure est-il ? Non, j'ai le temps. Troisième et dernier principe, le déterminisme. C'est une suite, disons, relativement logique, et c'est d'ailleurs la suite du dialogue entre D'Alembert et le médecin Bordeux. Dans le rêve de D'Alembert. C'est une suite assez logique, finalement, par rapport au matérialisme, que la question de savoir si nous sommes déterminés entièrement, c'est-à-dire si ce déterminisme physique est aussi moral. On a tout expliqué par de la matière, on a tout expliqué par un enchaînement causal. Un impact, cet impact lui-même à des échos. Eh bien, est-ce que ça veut dire pour autant que nous ne sommes absolument libres de rien, que nous n'avons pas le choix et que la liberté, comme la volonté, sont des fantasmes au même titre que Dieu, que l'âme spirituelle et tout ce double monde chimérique qui est celui de l'idéalisme. Alors, on peut dire que dans le rêve de D'Alembert, ça reste encore une question, ça reste quelque chose qui n'est pas tranché. Mais que par contre, dans certains articles de l'encyclopédie qui seront écrits, le rêve de D'Alembert, il est écrit en 1769. Dans certains articles qui sont immédiatement postérieurs, comme les articles sur le vice et la vertu, et l'article sur la volonté, qui sont des articles écrits donc par Diderot, eh bien, on voit que Diderot a passé le cap et qu'il admet en effet que tout est nécessité. Voilà le grand adage du déterminisme, tout est nécessité, y compris la vie morale, mentale d'un être humain. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si on va un peu lire, je vous y invite toujours, allez lire ces articles de l'encyclopédie qui sont disponibles dans le gros volume des œuvres philosophiques de Diderot paru chez Bouquin. Donc c'est assez accessible, vous avez tout dans un volume de 2000 pages pour 30 euros. Donc dans ces articles, on voit bien quels sont les arguments et quelles sont les conséquences de ce déterminisme. D'abord la question du vice et de la vertu. Il s'agit de déconstruire la théologie classique qui admet que nous sommes coupables, responsables, parce que précisément nous sommes libres et que nous avons choisi de pécher. Pour vous donner le contexte théologique de cette idée-là, le problème auquel Augustin, qui est le grand théoricien du péché originel, de la volonté pécheresse, enfin, à la suite de saint Paul, mais qui est celui en tout cas qui va l'imposer à toute la pensée médiévale, qui ne jurera que par Augustin. Donc Augustin, il est en but à une explication théologique qui est relativement délicate pour lui, c'est comment peut-on expliquer à la fois la toute-puissance divine et l'existence du mal, les petits enfants à peine nés qui meurent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça si Dieu est absolument bon et tout-puissant ? Eh bien, l'explication, c'est que c'est qu'il y a une faculté humaine qui est le libre arbitre, qui fait que l'homme est coupable, est fondamentalement coupable et qu'il est donc responsable de ce mal sur terre. Et il est coupable de façon si originelle que même le petit enfant qui n'a pas encore péché, simplement la volonté est une volonté qui est une volonté propre et qui détache donc l'homme de Dieu, puisqu'il veut, au lieu de laisser Dieu vouloir à sa place, la volonté est mauvaise. Voilà pour le petit univers classique avec lequel Diderot rompt en disant eh bien, ces idées de libre arbitre et de volonté, mauvaise ou bonne, peu importe, sont des fictions. On peut expliquer autrement ce qu'est la volonté. Et surtout, on doit avoir la même compatissance pour quelqu'un qui est méchant, qui est lâche, que pour quelqu'un qui est bossu ou aveugle. C'est-à-dire qu'on a la même responsabilité dans le physique qu'on a que dans le caractère qu'on a. Et cette responsabilité, elle n'est pas uniquement liée à la génétique. Il y a bien sûr ce qu'on hérite, le patrimoine, disons, cet ensemble de masse matérielle qui fait à la fois un physique particulier, mais qui fait aussi un tempérament, puisque pour Diderot, le tempérament, c'est vraiment une question de fonctionnement des organes. Ce n'est pas que vous le voulez, d'être colérique ou pas, c'est comment vos organes fonctionnent. Et alors la seule responsabilité, c'est souvent des responsabilités qui ne sont précisément pas celles d'un individu qui ne choisit pas, c'est les circonstances de vie, c'est l'éducation, c'est la morale ambiante. Eh bien, c'est toutes ces choses-là qui peuvent travailler sur une matière première qui serait celle que... Enfin, voilà, votre patrimoine génétique, quoi. Mais si on conçoit le mal ou les vertus, les vices, sous cet angle déterministe, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être méchant. Et Diderot dit dans cet article sur les vices et les vertus, eh bien, vous n'en voulez pas à un aveugle d'être malvoyant. Vous trouveriez que c'est vraiment inconséquent. Et pourquoi est-ce que vous en voulez à quelqu'un qui est méchant? Car qu'est-ce que la méchanceté, sinon précisément un problème de vue? Enfin, c'est-à-dire une façon d'être aveuglé sur les conséquences lointaines de ses gestes. Donc en fait, il faut traiter exactement de la même façon les tares physiques et les vices moraux, parce que c'est la même chose, c'est déterminé physiquement de la même façon. Alors la question de la volonté, on a l'impression qu'on peut décider et qu'on peut choisir. Mais qu'est-ce que c'est que le choix? Eh bien le choix, on peut prendre l'image de la balance, et ça montrera justement bien à quel point c'est purement déterminé. C'est-à-dire la balance, elle ne choisit pas de pencher d'un côté. Si on remet un poids, voilà, elle penchera. Eh bien de la même façon, la volonté, ce n'est rien d'autre que la façon dont un certain nombre d'éléments pèsent et inclinent le choix de façon complètement déterminée. Il n'y a donc aucune différence entre la volonté d'un fou et la volonté d'un homme saint. Vous savez que le droit, toujours contemporain, est basé sur cette différence. C'est le principe de la responsabilité juridique, c'est-à-dire on est condamnable que si on a une volonté libre. Eh bien, Diderot refuse cette idée-là. Il n'y a pas de différence entre la volonté soi-disant libre d'un homme saint et la volonté soi-disant aliénée d'un fou. C'est juste un ensemble de motifs qu'on considère comme plus ou moins valables selon les mœurs du temps, qui inclinent, voilà, comme un poids sur une balance, à agir de telle ou telle façon. Et c'est le même mécanisme. Alors je terminerai juste avec cette petite précaution que j'avais prise tout à l'heure en vous disant Diderot est un homme extrêmement instruit et pourtant la façon dont il défend cette thèse matérialiste, déterministe et athée est une façon qui utilise de façon privilégiée les dialogues, les contes, les supercheries comme la religieuse. Et il me semble qu'il faut en tirer une leçon essentielle, c'est que contrairement à une série d'autres matérialistes, le matérialisme de Diderot n'est pas dogmatique. Je dis, il s'agit de prendre le matérialisme comme une hypothèse à vérifier notamment par les voies de la science, de la neurologie, la connaissance du système nerveux, du cerveau. Mais c'est même pas ce que lui-même, c'est même pas la mission qu'il se donne. Il reste du côté de la métaphysique finalement, c'est-à-dire du côté de l'hypothèse. On va faire l'hypothèse que tout est matériel et on va essayer de voir qu'est-ce que ça entraîne comme vision globale de la religion, de la morale, de la société, de l'organisation politique, de ce que peut l'éducation. Enfin, voilà. C'est un principe d'explication qui permet d'expliquer le monde entier, mais d'une façon virtuelle. Et il me semble que c'est quelque chose que Diderot a refusé constamment. C'est l'idée de s'attacher à un principe de doctrine suffisamment que pour le défendre comme une vérité indépassable. Et on voit beaucoup ça, notamment dans Jacques le fataliste et son maître. C'est cette façon de tourner complètement en dérision, ce qui est pourtant le principe même de sa philosophie, qui est la philosophie matérialiste. Il faut quand même se remettre dans les circonstances, parce que ça me paraît vraiment énorme en réalité. D'abord, ça rompt avec les habitudes de la philosophie, qui sont les habitudes d'établir un grand système à la façon de Kant, qui donne l'explication absolue de tout et qui prétend à la vérité. On n'est pas là-dedans hein, chez Diderot. On est tout le temps dans la pitrerie. On est dans du dialogue où on peut toujours adopter une position ou l'autre. Il y a de la contestation, il y a du jeu. Et il défend vraiment ça comme une position de principe, me semble-t-il, qu'on voit particulièrement dans l'article de l'encyclopédie sur l'éclectisme. Il faut refuser de se mettre à l'école de quiconque. Il faut refuser d'avoir un maître et être un apprenti permanent. Être du coup dans le jeu, dans l'expérience intellectuelle, l'expérience de pensée, mais qui n'a pas prétention à révolutionner, qui n'a pas prétention à la vérité. Voilà. J'espère que ce que j'aurais dit vous aura un tout petit peu donné envie de lire Diderot.
Je remercie Gaël Jean-Marc de nous avoir fait une synthèse dans la philosophie de Diderot tout en nous en parlant un peu par touche pour essayer de rester en accord avec le penseur lui-même qui essaye d'éviter le système. Et je vous cède tout de suite la parole pour des questions ou des remarques.
Merci, madame. Je vais peut-être fort anticiper, mais vous avez parlé de germes. Quand je vous écoute, le matérialisme, le déterminisme, même si le matérialisme, ici c'est le minéral qui prend le dessus, mais j'entends des prémices de Marx. Est-ce que c'est possible qu'on est déjà dans le... On commence le 19e siècle. Évidemment, c'est... j'anticipe beaucoup, madame, hein, mais est-ce que Marx a été, d'une certaine façon, influencé par Diderot? Est-ce qu'on n'est pas au point de départ d'un courant de pensée qui va s'établir et peut-être qui va être valorisé avec la Révolution? Bon, voilà.
Alors, je n'ai pas les éléments de connaissance historique qui me permettraient de trancher. Je sais juste que Goethe est très influencé par le matérialisme de Diderot. Il traduira d'ailleurs, je pense que c'est Jacques le Fataliste, il traduit Diderot en allemand. Et donc je pense qu'il y a en effet dans ces milieux de l'intelligentsia allemande une bonne connaissance de Diderot. Maintenant, je ne connais pas les voies de passage de la doctrine qui est plus ancienne, hein, qui en fait elle ne naît pas du tout avec Diderot. Le matérialisme, c'est d'abord celui... des atomistes anciens qui disaient exactement la même chose, c'est-à-dire que tout est matière et l'univers tout entier, âme compris, Dieu compris, est composé d'atomes et tout est explicable par les mouvements d'atomes. Enfin, voilà. Mais je ne peux pas vous répondre plus précisément et ça, c'est les limites de la spécialisation. Hein. Ça, c'est...
Ce qui est très surprenant, je trouve, dans votre discours, fort intéressant, c'est cette continuité, l'intuition finalement de la continuité qu'a eu Diderot entre le règne minéral et le vivant. Parce que à la même époque, des gens comme Buffon et tout ça ne semblent pas du tout avoir eu cette intuition. J'ai vraiment appris quelque chose en vous écoutant parce que j'ai trouvé ça, je dirais, génial. L'idée de Diderot, c'est une intuition parce qu'il n'en avait aucune preuve expérimentale, quoique l'allusion à la statue de marbre qui explose et qui finalement est absorbée et devient un légume est évidemment absolument exacte. Mais ce sont plutôt des idées du 19e siècle que du 18e. C'est pour ça que je parle d'une intuition géniale. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais enfin, voilà.
Si, alors, je pense qu'il est dans un courant de pensée qui n'est pas majoritaire, mais qui a déjà des botanistes et des naturalistes pour le défendre. Comme ce naturaliste anglais dont j'ai parlé tout à l'heure, Needham, En fait, Diderot s'appuie sur les théories d'un naturaliste, Needham, donc ça s'écrit N-2-E-D-H-A-M, et qui partent de l'observation de vermisseaux qu'il y a dans le blé, je ne sais plus quelle maladie du blé, hein, donc c'est vraiment des expériences de botanistes, et ce sont des observations au microscope de la façon dont les vermisseaux se lient entre eux et finissent par former autre chose qui est cette petite bête qui attaque le blé. Et donc, ils ont une sorte de connaissance dans ce cercle de ce naturaliste anglais. Et alors, il y a ceux qui sont plutôt partisans, comme Diderot et d'Holbach. Et puis, il y a ceux qui se moquent ouvertement de Needham. Je pense qu'il appelle le verrouillard ou quelque chose comme ça, en référence à ces vermicelles qu'il étudie. Et c'est Voltaire, notamment, qui se moque de ce naturaliste. Voilà, je...
Si tu me permets d'ajouter quelque chose, cette intuition dont vous parlez vraiment à partir de l'alimentation et de la création, on la trouve déjà un siècle plus tôt chez Cyrano de Bergerac, où il y a déjà des images qui vont tout à fait dans ce sens, où il montre que le pape lui-même est composé des aliments les plus matériels que l'on retrouve et qui retournera à la terre et qui va... qui a vraiment cette idée de matière qui se mélange et qu'on absorbe par les plantes, etc. Et je ne sais pas, je ne peux pas jurer que Diderot a lu Cyrano, mais c'est quelque chose de tout à fait possible et qu'on retrouve donc déjà au milieu du XVIIe. D'autres questions ou remarque. C'est une pensée évidemment assez dérangeante, même encore aujourd'hui, quand on voit bien, comme on nous l'a montré, qui va vraiment à l'encontre de l'organisation même de notre société avec le système juridique. Comment est-ce que ce déterminisme, qui semble être assez radical à la fin, chez Diderot, permet de concevoir une morale, ou est-ce que ça élimine complètement la possibilité d'une morale?
Non, ça ne l'élimine pas du tout. Mais alors, on le voit mieux chez d'Holbach, dont on parlera la semaine prochaine, tout en étant qu'il n'y a pas de frontière absolue à faire entre les œuvres de Diderot et celles de d'Holbach, puisqu'ils sont tellement proches que Diderot se plaint beaucoup d'avoir à relire constamment les productions de d'Holbach et d'avoir à réécrire. Donc voilà, c'est difficile de savoir ce qui, dans l'œuvre de d'Holbach, est écrit par d'Holbach et ce qui est écrit, révisé par Diderot. Et dans les choses que d'Holbach dit sur la morale, c'est que... ça n'a pas de... On a tort de lier le déterminisme avec l'idée d'une licence morale. En réalité, cette licence morale, elle est beaucoup plus visible dans la société fondée sur les préceptes chrétiens qu'elle ne serait évidente dans une société où ces valeurs du déterminisme auraient bonne presse. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre... on n'est pas libre d'être bon ou mauvais, et que la conscience même de ce déterminisme ne va pas modifier cet état de choses de toute façon. Alors, ce que reproche d'Holbach à la société telle qu'elle est organisée autour des valeurs chrétiennes, c'est que on peut tout à fait imaginer qu'il y ait un droit de la société à châtier le mal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le mal est nécessaire et qu'il est déterminé qu'on ne doit pas emprisonner quelqu'un. Donc ça, ça se justifie entièrement, du simple point de vue de la protection d'une société. Et aussi du point de vue des impacts que ça peut avoir sur l'organisation de la société en termes d'encouragement ou de découragement. Donc c'est de même façon dont on dit la volonté est déterminée par un certain nombre d'éléments. Et bien dans ces éléments, il y a la prise en compte du châtiment. Donc c'est un raisonnement qui se tient. L'État peut se fonder sur la punition pour encourager les comportements qui permettent à cet État de perdurer. Ce qui est finalement la loi de tout être, c'est la loi première, c'est perdurer. Et alors ce qu'il reproche à l'organisation de la société contemporaine, c'est de faire du châtiment un spectacle et d'encourager par là, au contraire, la cruauté. C'est-à-dire on peut très bien dire telle personne est nocive, on la condamne, et c'est tout. Mais si on fait un spectacle et si on a un raffinement dans la façon de condamner les gens à mort, par exemple, eh bien là, on est en train de développer un tout autre registre qui n'est plus celui de la protection d'une société, mais qui est une façon de produire, d'inciter un certain nombre de comportements précisément non vertueux. Donc voilà la façon dont on peut contester le lien qui est vite fait entre déterminisme et licence morale, quoi.
Mais si on est déterminé, comment est-ce qu'on peut encore vouloir agir? On ne peut plus vouloir, on agit. Mais et dans ce cas-là, qu'est-ce que serait la morale? Est-ce que c'est juste un peu une observation des comportements sans qu'il y ait des comportements qui soient plus acceptables que d'autres? Comment ça se passe?
Non, alors la morale, c'est très concrètement le partage entre le bien et le mal. Alors le bien et le mal, ils n'existent pas dans la nature. La seule chose qui existe, c'est le fait que tout organisme est attiré par certaines choses et rebuté, repoussé, refoulé par d'autres choses. Donc c'est juste un phénomène d'attraction ou de répulsion. Alors voilà, les êtres humains ont choisi de nommer bien les choses par lesquelles il était attiré, mal celles par lesquelles il était rebuté. Mais voilà, ce qu'une société en général nomme bien et mal ne correspond pas à la façon dont chaque individu est, selon l'éducation qu'il a, attiré ou rebuté par des choses. Et donc c'est pour ça que l'éducation est responsable de ce que des comportements nocifs, c'est qu'en fait, elle a des façons très concrètes d'incliner à l'attirance vis-à-vis de certains comportements, de certains objets, qui sont pourtant condamnés par la morale communément acceptée. Voilà. Je ne sais pas si je réponds.
Tout à fait, et ça fait vraiment le lien avec Hobbes, parce que ça, c'est des théories qu'on a entièrement chez Hobbes, mais on sait que d'Holbach... Spinoza, oui. Qui était aussi influencé par Hobbes, et d'Holbach est le seul personnage du 18e à se revendiquer un lien avec Hobbes, à le traduire, à le connaître ouvertement. Donc on a vraiment un lien très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques?
C'est bien du déterminisme. Il me vient une question à l'esprit. Dans ce déterminisme, certains philosophes ont défendu l'innéisme. Alors, est-ce que l'innéisme et le déterminisme sont compatibles ou incompatibles?
Bien, ils sont en principe compatibles. C'est-à-dire, le déterminisme peut donner l'ensemble... Enfin, je sais pas, on va voir si c'est compatible ou pas. Je sais qu'en tout cas, celui de Diderot n'est pas innéiste. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne considère pas que l'ensemble des comportements est donné d'un coup, est donné par un patrimoine génétique, par exemple, par une organisation particulière, des organes, parce qu'il y a un vrai impact constant de l'environnement. Donc en fait, c'est déterminé. Disons qu'on sort de l'opposition entre inné et acquis, qui serait une opposition entre déterminé et libre, au sens où on voudrait dire, avec ce matérialisme dynamique, que il y a des tas de choses qui s'acquièrent, mais que ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a là une liberté qui se crée. Il y a des tas de déterminismes qui s'acquièrent par l'ensemble des expériences vécues. Voilà. Le problème, c'est que ce débat inné-acquis, me semble-t-il, a été confisqué, mis sous une opposition conceptuelle plus massive entre déterminé et libre, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, on peut imaginer quelque chose d'acquis, mais qui néanmoins est parfaitement déterminé. Je ne sais pas si c'est pas clair ce que je...
Une dernière question.
Oui. Madame, vous avez parlé des... Enfin, Diderot a écrit des sermons.
Oui, pour des prêtres, oui, pour gagner un peu d'argent à 17-18 ans, quoi, oui.
Et qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il disait qu'il était là ?
Ah ben alors ça, j'ai aucune trace de ces sermons. Je ne sais même pas si elles existent, parce qu'il y a plein de traces qui se sont perdues. On sait juste que la pratique existait et que Diderot a prêté ses services intellectuels de façon très momentanée à une série de causes qu'il n'épousait pas du tout juste pour gagner un peu d'argent. Donc je ne pense pas que ces sermons... c'était juste un gagne-pain, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait un contenu particulier, mais je ne sais pas.
C'était pas contradictoire avec sa théorie.
Je ne sais pas.
C'était vraiment pécunier.
Disons que dans les œuvres, déjà c'est récent. La publication et le fait d'accéder à l'œuvre de Diderot. Il y a d'abord eu toutes ces œuvres qu'il a gardées dans un tiroir parce qu'il estimait que le temps n'était pas prêt, qui sont toutes les œuvres qu'on connaît maintenant, Le rêve de D'Alembert, La religieuse, Jacques, Le fataliste et son maître. Donc voilà, une édition largement postérieure. Et puis, il y a aussi de nouveau ces choix de l'historiographie qui font que Diderot n'a pas été d'abord édité, donc jusqu'il y a 10 ans peut-être. Eh bien, c'était très compliqué de lire des articles de l'encyclopédie. Il fallait vraiment se retrouver devant les volumes. Ils sont à l'Université de Liège, je sais, les volumes de l'encyclopédie, des exemplaires un peu du début, quoi. Ce qui est accessible maintenant de Diderot, je pense qu'il y a 5 tomes parus chez Bouquin. Il y a les contes. Il y a le théâtre, il y a la philosophie et la correspondance. Et dans la correspondance, c'est une mine d'informations, mais je n'ai pas vu de traces de sermons. Je ne pense pas qu'on ait ces sermons.
C'est bizarre. C'est curieux, quoi.
Si personne... ne souhaite plus prendre la parole. Je remercie encore Gaël Jean-Marc. Je vous invite à venir l'écouter parler de Dolbach lundi prochain. Et je vous rappelle que jeudi, on a une conférence de l'autre cycle d'histoire de la médecine. Ce sera Camille Locht qui va parler de l'histoire de la microbiologie de Louis Pasteur à nos jours.